C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Le loup qui avait peur de tout, de Anne Rocard. C'était un énorme loup aux oreilles velues, aux longues dents pointues, qui vivait dans une profonde forêt de l'autre côté de la terre. Il s'appelait Garou-Garou. Personne n'osait l'approcher, personne n'osait lui parler. Et tout le monde tremblait en chuchotant « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Quand Garou-Garou s'avançait dans la forêt, les lapins plongeaient dans leur terrier, les cerfs s'enfuyaient entre les fourrés, les oiseaux s'envolaient au sommet des arbres et le vieux hibou ululait. « Méfiez-vous, houhou, méfiez-vous, houhou, c'est le plus féroce des loups !» Les animaux terrifiés fermaient les yeux pour ne pas voir passer le terrible Garou-Garou. Pourtant, l'énorme loup avait peur de tout. Des serpents qui se dandinaient sur le sentier, des crapauds qui faisaient des bulles dans l'eau, des minuscules araignées et même des escargots. Mais ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était de se retrouver le soir dans le noir. Dans sa caverne, Garou-Garou avait installé une veilleuse, une petite lumière qu'il n'éteignait jamais. Il avait aussi glissé une lampe de poche sous son oreiller. Et avant de fermer les yeux, il répétait trois fois. « Carabi et Caraba, ma lampe est là près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. Carabi et Caraba, ma lampe est là près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. Carabi et Caraba, ma lampe est là près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. » Et le loup, rassuré, s'endormait profondément. Hélas, chaque nuit, il se réveillait en sursaut. Des ombres dansaient autour de lui, des sorcières au long nez, des ogres affamés qui voulaient le dévorer. Et le loup se mettait à hurler « Ouh, ouh, ouh !» Il bafouillait, il bredouillait « au secours, au fou, au chou, au loup !» Il plongeait la tête, la première sous son édredon, en pleurnichant. « Maman, maman, il y a un géant, il y a un méchant !» Au bout d'un moment, le loup se frottait les yeux. Il allumait sa lampe de poche et la dirigeait vers la fenêtre et la forêt. Aussitôt, toutes les ombres disparaissaient. Les sorcières et les ogres redevenaient des arbres et des buissons. Il n'y avait plus aucun géant. Et Garou-Garou soupirait. Ah, j'ai encore fait un cauchemar. Oh, normal quand on a peur du noir. Une nuit, le gros loup n'arrivait pas à dormir. Il essayait de compter des moutons, mais les moutons effrayés s'enfuyaient en criant « Méfiez-vous, méfiez-vous, c'est le plus féroce des loups !» Il se tournait et se retournait dans son lit quand tout à coup, quelqu'un frappa à la porte de la caverne. Toc, toc, toc. Ça alors, jamais personne n'avait osé venir chez lui. Garou-Garou se mit à trembler et chuchota. Qui est là ? Noémie, répondit une voix très douce. Le loup s'approcha sur la pointe des pattes et regarda par le trou de la serrure. Mais la nuit était si noire qu'il ne distingua rien.
Que veux-tu, grogna Garou-Garou.
Je suis perdue dans la forêt, dit la petite fille. J'ai peur. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Très surpris, le loup tout sauta et demanda Connais-tu Garou-Garou ?
Garou ? Gara ? Garou ? Pas du tout, dit Noémie. Alors le loup eut une idée. Une idée géniale. Il cacha sa lampe de poche sous son matelas. Seule la veilleuse éclairait encore la caverne.
« Comme ça, la petite fille ne me verra pas, pensa-t-il. »
Et il ouvrit la porte. « Je peux entrer ? » fit Noémie.
« Bien sûr, répondit le loup, je m'appelle Garou-Garou. »
La petite fille ouvrit de grands yeux et s'écria « Ah là là, on n'y voit rien chez vous. Vous n'auriez pas une lampe de poche par hasard ?»«
Non, bredouilla le loup. »
« Tant pis, dit Noémie qui grimpa sur le lit en souriant et s'endormit aussitôt. Garou-Garou n'en revenait pas. Pour la première fois de sa vie, il avait parlé à quelqu'un et quelqu'un lui avait répondu sans se mettre à hurler de terreur. Pour la première fois de sa vie, on lui avait souri. Pour la première fois de sa vie, il aimait le noir qui cachait ses oreilles velues et ses longues dents pointues. Le loup était si ému que deux petites larmes brillèrent au coin de ses yeux.
« Oui, mais demain, soupira-t-il, demain il fera jour. Demain, Noémie s'enfuira et tout recommencera comme avant. »
Garou-Garou sortit sa lampe de poche et dirigea la lumière vers le grand lit où dormait la petite fille. Ses deux nattes blondes formaient un cœur sur l'oreiller. Enfin, très fatigué, le gros loup s'allongea sur le sol et s'endormit. Le lendemain matin, Noémie entr'ouvrit les yeux. Elle aperçut une énorme forme noire roulée en boule sur le tapis. Surprise, elle chuchota « C'est vous, Garou-Garou ?»«
Oui, c'est moi, répondit le loup. »
Garou-Garou n'osait pas bouger de peur d'effrayer la petite fille et il ajouta « Si tu veux, tu peux t'en aller, la porte n'est pas fermée à clé. »« Oh non, dit Noémie, je préfère encore rester un peu. » Elle sauta hors du lit et s'approcha de Garou-Garou. « Vous êtes un chien géant ? Un chien très méchant ?»«
Pas du tout, fit Garou-Garou.
« Vous êtes un éléphant poilu ? « Un mammouth velu ?»«
Pas du tout, fit Garou-Garou.
« Vous êtes peut-être un loup ?» demanda la petite fille.
« Exactement, fit Garou-Garou. « Je suis un loup qui a peur de tout. »«
Même des petites filles ?» s'étonna Noémie.
« Oui, fit Garou-Garou qui n'en était plus très sûr. »
Alors Noémie s'assit à côté de l'énorme loup et caressa sa fourrure noire. « Vous êtes très doux, monsieur le loup qui a peur de tout. Moi, je n'ai pas peur de vous. » En riant, la petite fille fit signe à Garou-Garou de se lever et elle sauta sur ses épaules. « En route, monsieur le loup, j'habite de l'autre côté de la forêt. Pourriez-vous m'y conduire, s'il vous plaît ?» Très fière, Garou-Garou sortit de sa caverne. Il traversa la forêt à grands pas. Aussitôt, les lapins plongèrent dans leur terrier. Les cerfs s'enfuirent entre les fourrés. Les oiseaux s'envolèrent au sommet des arbres. Et le vieux hibou ulula. « Méfiez-vous, houhou, méfiez-vous, houhou, c'est le plus féroce des loups !» Les animaux terrifiés fermèrent les yeux pour ne pas voir passer le terrible Garou-Garou. Mais, tout à coup, le vieux hibou entr'ouvrit un œil et qu'aperçut-il ? Une petite fille aux deux nattes blondes assise sur les épaules du loup. « Regardez tous ! Garou-Garou, il n'est plus féroce du tout !»«
Il n'est plus féroce du tout !» s'étonna un lapin peureux.
« Plus féroce du tout, du tout, du tout !» sifflèrent les oiseaux heureux. Et les animaux éberlués suivirent le loup sur le sentier. Mais Garou-Garou ne se retourna pas. Il traversa la forêt à grands pas, emportant Noémie ravie. On raconte qu'il n'est pas revenu chez lui et qu'il n'a plus jamais eu peur de la nuit. Fin. jardinier qui cultivait des livres. Nadine Poirier, Claude Dubois. Il était une fois un jardinier passionné des livres. Plus que tout, il aimait raconter des histoires aux gens de son village. Il allait même cogner de porte en porte pour lire ses extraits préférés à toute heure du jour et de la nuit. Malgré ses récits captivants, les gens en eurent assez de se faire déranger durant leur sommeil, si bien qu'ils le chassèrent du village. Sa nouvelle maison se trouvait dans une vallée éloignée. Elle était entourée d'un grand jardin dans lequel il faisait pousser des romans, des albums, des bandes dessinées et des livres d'aventure. Le jardinier enfouissait des mots dans la terre de son jardin. Il arrosait méticuleusement les racines, les fertilisait de fruits et de légumes qu'il étendait entre les pousses. Le soir venu, le jardinier les couvrait d'un grand voile pour protéger les pages de la pluie et du froid. Il prenait bien soin de sa culture qui avait une valeur inestimable à ses yeux. Avant d'aller au lit, le jardinier cueillait un livre qu'il se hâtait de découvrir. Faire la connaissance de nouveaux personnages le réjouissait et lui permettait de se sentir moins seul. Il adorait trembler de peur, se tordre de rire et s'émouvoir. Le jardinier avait l'étrange sensation de visiter la lune, de voguer sur les océans et de planer à dos de dragon. C'était chaque soir le grand frisson. Un matin, alors qu'il soulevait le voile de son jardin, le jardinier découvrit une petite fille cachée entre les livres. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas vu une enfant. Malgré ses vêtements souillés et ses pieds nus, elle lui souriait. Le jardinier s'approcha d'un air méfiant.
« Où sont tes parents ?»«
Je n'ai pas de parents. Les gens du village m'accueillent à tour de rôle. Mais jamais longtemps. Ils trouvent que je dérange. »«
Ah oui ?»
Le jardinier sourcilla. Il n'avait nulle envie qu'on vienne troubler sa paix. La petite fille remarqua son malaise. Désinvolte, elle lui déclara.
« Je lis tout le temps. Ça les énerve. Au fait, vous saviez que les crapauds grandissent toute leur vie ?»«
Surprenant. » »«
Oui, j'ai lu ça dans un documentaire sur les crapauds. »«
Un documentaire ? Je n'ai pas de livre d'information. Je préfère les récits. »«
Un récit ? Qu'est-ce que c'est ?»
Le jardinier cueillit un livre qu'il essuya délicatement du revers de sa chemise. Curieuse, la petite fille le prit et se mit à lire.
Il était une fois un brave homme qui avait épousé en seconde noces une femme froide et hautaine. Elle avait deux filles qui lui ressemblaient beaucoup.
Le son de sa voix faisait une douce mélodie aux oreilles du jardinier qui ferma les yeux pour savourer ce doux moment. Plus de silence.
Entendre les mots s'exprimer par une autre bouche que la sienne, quel bonheur.
S'il vous plaît, puis-je lire au complet ?
Au complet ? Ce n'est pas possible. Ah non, tu ne peux pas rester ici plus longtemps.
S'opposa le jardinier en reprenant son livre. La petite fille inclina la tête d'un air déçu. Puis soudain, elle leva les yeux et lui demanda.
Auriez-vous un livre qui explique comment faire pousser des enfants ?
Spontanément, le jardinier s'exclama.
Faire pousser des enfants ? Ben voilà une drôle d'idée.
Vous faites bien pousser des livres.
Ben, qu'est-ce que j'en ferai ?
Vous ne seriez plus seul.
Le jardinier n'avait jamais essayé de faire pousser autre chose que des livres d'histoire et des légumes.
Je ne saurais pas m'occuper des enfants.
Plantez-moi, s'il vous plaît.
Le jardinier faillit s'étouffer de stupéfaction.
Te planter ? Mais on ne plante pas une enfant !
La petite fille lui prit la main et l'implora d'essayer.
« Je vous promets de rester sagement les deux pieds dans la terre, sans bouger. »
Dérouté par cette demande inusitée, le jardinier céda. Il alla chercher sa pelle et creusa un trou pour y mettre les pieds de l'enfant. Son cœur se mit à battre très fort lorsqu'il la souleva. Le jardinier n'avait jamais tenu de petite fille dans ses bras. Elle s'accrochait à son cou avec ses minuscules mains. Un sentiment étrange pénétra son cœur. Les yeux souriants de la petite fille plongés dans les siens l'encourageaient dans sa tâche singulière.
lui qui ne connaissait que les regards fatigués et endormis des villageois. À regret, il lui plaça les pieds au fond du trou et l'enveloppa de terre jusqu'aux genoux.
« J'ai soif. »
« Que faire ?»
Il ne savait pas ce que boivent les petites filles. Lui donner l'eau tiède qui reposait dans ses barils était hors de question. Le jardinier courut à la rivière afin d'y puiser l'eau la plus fraîche. À l'aide de son arrosoir, il versa l'eau dans la bouche de la petite fille qui avala à pleine gorgée.
« J'ai faim. »
« Que faire ?»
Il courut cueillir des fruits dans les champs et des légumes dans son potager. La petite fille mangea si goulûment qu'elle avait des traces de fraises jusque sous les yeux. Avec son mouchoir, le jardinier essuya doucement sa peau de pêche.
« Je m'ennuie. »«
Mais que faire ?»
Elle ne pouvait pas jouer au ballon ni se promener à bicyclette. Il demeura toute la journée près d'elle à lui faire la lecture.
Près d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fillette Gretel. La famille s'abattit sur le pays et même le pain vint à manquer.
Elle écoutait, ravie. Il lui en raconta une autre, puis encore une autre. Les minutes passèrent, puis les heures. Elle était captivée par ses histoires. Un bonheur inqualifiable envahit le jardinier. Entre deux lectures, elle l'interrompait.
« Au fait, vous saviez que l'escargot peut dormir durant 3 ans ?»
Lorsque le soleil toucha l'horizon, elle lui bredouilla en grelottant.
« J'ai froid. »«
Que faire ?»
Ses vêtements étaient trop grands pour elle. Il se précipita à sa cabane pour y prendre sa couverture la plus chaude et la plus douce qu'il déposa lentement sur ses menues épaules. Elle cessa aussitôt de grelotter.
« Oh, j'ai sommeil. »
Que faire ? Elle ne peut pas dormir dehors.
Il l'entoura de ses bras afin qu'elle puisse poser sa tête sur son épaule. Au bout d'un moment, elle s'endormit contre lui. Le jardinier était fatigué de rester accroupi, mais si heureux que rien au monde ne l'aurait obligé à rejoindre son lit. Au matin, il se réveilla courbattu. Durant son sommeil, il s'était allongé et la petite fille avait lentement plié les jambes pour s'étendre contre lui. Dans le jardin, il n'y avait pas de nouveaux enfants. La petite fille ouvrit des yeux souriants et soupira de satisfaction. À l'oreille du jardinier, elle souffla.
« Maintenant, vous savez prendre soin des enfants. »«
Tu m'aideras à faire pousser des encyclopédies et des documentaires ?»
Elle hocha la tête.
« D'accord, tu peux rester. »
La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca. La paire de chaussures. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses. Et elles espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec, puis, voyant qu'elle lui allait bien, elle dit « Je les achète !»« Faut-il vous les envelopper ?» demanda la vendeuse. « Inutile, dit la dame, je rentre avec. » Elle paya et sortit avec les chaussures neuves aux pieds. C'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir seulement, ils se retrouvèrent dans un placard obscur. « C'est toi, Tina ?»«
Oui, c'est moi, Nicolas. »« Oh, quel bonheur, je te croyais perdue. »« Moi aussi, mais où étais-tu ? » ?»«
Ben moi, j'étais au pied droit. »«
Ben moi, j'étais au pied gauche. » »« Je comprends tout, » dit Nicolas. « Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j'étais en arrière. » Et lorsque tu étais en arrière, moi, j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir.
Et cette vie-là va recommencer chaque jour ? Demanda Tina.
Je le crains.
Mais c'est affreux.
Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas, je ne pourrai jamais m'y habituer. Écoute, dit Nicolas, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche, eh bien chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour. D'accord ? D'accord ! Ainsi fit Nicolas, de sorte que tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire trois pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche et plaf ! À chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla le jour même consulter un médecin. « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Je me fais des croche-pieds à moi-même. »« Des croche-pieds à vous-même ? » ?»« Oui, docteur. À chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche et cela me fait tomber. » « Oh, c'est très grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Donnez-moi 2000 francs pour la consultation et revenez me voir demain. » Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. « Tu as entendu ce qu'a dit le docteur ?»« Oui, j'ai entendu. Mais c'est affreux. Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera ?» Et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose. Mais oui, mais quoi ? Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis à gauche, c'est moi, demain, qui ferai un petit écart à droite à chaque fois que j'avancerai. D'accord ? D'accord. Ainsi fit-elle, de sorte que tout au long du deuxième jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit et plaf ! La pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin. « Docteur, cela va de moins en moins bien. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit. »«
Oh, mais c'est de plus en plus grave, dit le docteur. Si cela continue, il faudra vous couper les deux pieds. Tenez, voici une ordonnance. Donnez-moi 3000 francs pour la consultation et n'oubliez pas de revenir me voir demain. »
Le soir même, Nicolas a demandé à Tina. « Tu as entendu ?»«
J'ai entendu. »
Mais si l'on coupe les deux pieds de la dame, qu'allons-nous devenir ?
Je n'ose pas y penser.
Et pourtant, je t'aime, Tina. Moi aussi, Nicolas, je t'aime.
Ils parlaient ainsi dans l'obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir en pantoufles parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation. Et comme elle était très intelligente, elle comprit tout. « C'est donc ça, pensa-t-elle, ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui s'aiment.
Oh, comme c'est gentil »
Là-dessus, elle jeta à la boîte aux ordures les 30 000 francs de médicaments qu'elle avait achetés, et le lendemain, elle dit à sa femme de ménage « Vous voyez cette paire de chaussures ? Je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout ne les séparez jamais l'une de l'autre. » Restée seule, la femme de ménage se dit « Madame est folle de garder ses chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand madame les aura oubliées, je les volerai. » C'est ce qu'elle fit. 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les eut mises, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Tina et Nicolas voulurent s'embrasser et badaboum, vlang, bing, la femme de ménage se retrouva assise sur un palier avec plein d'épluchures sur la tête et une pelure de pommes de terre qui pendait en spirale sur son front. « Oh, mais ces chaussures, je ne les mettrai plus !» Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. » C'est ce qu'elle fit. La nièce qui était boiteuse, en effet, passait presque toute la journée sur une chaise, les pieds joints. Et quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura un temps. Mais un soir, Tina dit à Nicolas, « Nicolas, je sens ma semelle qui devient fine. Je vais bientôt être percée.
Ah non, ne fais pas ça. Si on nous jette, nous allons être encore séparés. Je sais bien, mais que faire? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir.
Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. La boiteuse acheta des chaussures neuves et jeta Nicolas et Tina dans la boîte à ordures.
Qu'allons-nous devenir? Demanda Nicolas.
Je ne sais pas, dit Tina.
Approche-toi, dit Nicolas. Prends ma bride avec la tienne. De cette façon, nous ne serons pas séparés.
Ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par le camion des éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille les y trouvèrent.
« Oh, regarde les chaussures! Elles sont bras dessus, bras dessous !»«
Mais c'est qu'elles sont mariées ensemble !» dit la petite fille.
« Eh bien, dit le petit garçon, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. » Le petit garçon prit les chaussures, les cloua côte à côte sur une planche, puis il porta la planche au bord de l'eau et la laissa descendre au fil du courant vers la mer. Pendant qu'elle s'éloignait, la petite fille agitait son mouchoir en criant « Adieu, chaussures, et bon voyage !» C'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.